Côté Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Le professeur Olivier Amezen a découvert en 2008 que le baclofène pouvait supprimer l'envie impérieuse de boire et rendre indifférent à l'alcool. Ce médicament relaxant était jusqu'à maintenant habituellement prescrit dans certaines maladies neurologiques. Une découverte particulièrement intéressante quand on sait que l'usage nocif de l'alcool entraînerait chaque année 2,5 millions de décès dans le monde. Alors au mois d'avril, l'AFSAP, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui d'ailleurs depuis a changé de nom, a rendu un avis favorable à la prescription de cette molécule aux patients alcoolo-dépendants. Des études scientifiques sont en cours afin de démontrer maintenant le taux d'efficacité de ce traitement, de parler aussi des effets secondaires. On va parler de l'une d'entre elles, de REL, qui va démarrer la semaine prochaine. En quoi consiste cette étude? Quels sont les autres études en cours, quels sont les risques et les effets secondaires du baclofène? C'est ce qu'on va voir avec mes invités, le professeur Philippe Jory, qui est addictologue, professeur de médecine générale à l'université Paris-Descartes, et le docteur Pascal Garche, qui est médecin interniste, alcoolologue installé à Genève. Il est ancien médecin responsable de l'unité d'alcoolologie des hôpitaux universitaires de Genève. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Professeur Philippe Jory, bonjour.
Bonjour.
Docteur Pascal Garche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Genève, des studios de la radio suisse romande. Professeur Philippe Jory, le baclofène est un médicament relaxant, je l'ai dit, qui était habituellement prescrit dans certaines maladies neurologiques. Est-ce qu'on sait un petit peu maintenant comment agit ce baclofène et pourquoi il est intéressant dans l'alcoolisme?
De façon très simple, il agit sur le récepteur GABA-B. Mais bon, c'est pas très simple parce que c'est compliqué,
c'est
les récepteurs dans le cerveau. Disons que ça bloque certains mécanismes et puis ça agit sur le circuit que nous on appelle le circuit de la récompense. Donc c'est une action très complexe, très simple au début mais qui se complexifie dans le cerveau au fur et à mesure. Visiblement, d'après les effets qu'on voit sur les patients, ça a un effet surtout qui bloque le craving. Cette pulsion, cette envie irrésistible que les patients ne peuvent pas gérer. Donc, visiblement, ça bloque ça.
Docteur Pascal Garche, et simplement, ce baclofène, il marche, mais à forte dose.
Alors, par rapport à ce que les neurologues utilisaient jusqu'alors, puisque c'est un médicament qui est très ancien, il a été commercialisé au milieu des années 70, et donc on a bientôt 40 ans de recul avec ce médicament. Les neurologues avaient l'habitude de le prescrire sur des doses de 50, 60 mg, mais dans un certain nombre de cas, quand la raideur musculaire, puisque c'était pour ça qu'on le prescrivait, qui intervient dans certaines maladies neurologiques, eh bien les neurologues avaient l'habitude de monter les doses, d'augmenter les doses pour essayer d'obtenir une décontraction musculaire plus efficace, parce que parfois ces contractures musculaires sont extrêmement invalidantes pour les malades atteints de maladies neurologiques. Alors ils ont pu monter jusqu'à 150, voire 200 mg. Et il y a des séries qui ont été publiées avec des fortes doses. Voilà, ce qui nous donne un peu de... quand même un peu d'histoire intéressante de ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire l'histoire du médicament et de ses effets indésirables. Et on est donc sur des doses pour traiter le craving, comme l'évoquait le professeur Jory, sur des doses beaucoup plus importantes que les 50-60 mg. On est souvent autour de 150, 180, 200 et parfois plus quand ça la semble nécessaire.
Et professeur Jory, le problème, c'est que du coup, il y a quand même quelques effets secondaires.
Oui, mais comme pour tous les médicaments.
Moi, je vais dire que
c'est marrant comme on est obsédé par les effets secondaires, mais il faut, en médecine actuellement, ce qui compte, c'est le bénéfice-risque. Il est évident que quand on voit le nombre de vies que peut sauver le baclofène, a priori, si les études le confirment, je pense qu'il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, les témoignages des patients souvent nous disent « Oui, bien sûr, j'ai quelques effets secondaires, bien sûr, j'ai des effets secondaires, mais vu le bénéfice que j'en tire, ça vaut le coup. » Vous savez, ça me fait penser aux médicaments pour le cancer. Il y a encore plus d'effets secondaires. Mais bon, si ça peut sauver la vie du...
Chimiothérapie,
c'est beaucoup. Il y a beaucoup plus d'effets secondaires qu'avec le baclofène. Il n'y a pas photo, hein.
On reviendra quand même sur ces effets secondaires. On va parler longuement de l'étude que vous allez démarrer la semaine prochaine. Mais il y a une première étude que vous avez faite qui est parue au mois de mars dans la revue Alcool-Alcoolisme, qui est plutôt une étude rétrospective qui a été réalisée sur 130 patients. Alors, dites-nous un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui ressortait de cette étude?
Alors, c'est une étude que j'ai faite avec mon équipe et puis Renaud de Bourpère. En fait, au départ, c'était, ça devait être une étude prospective, c'est-à-dire qu'on partait avec des patients, on incluait des patients, et puis on rentrait dans nos ordinateurs, il y avait une soixantaine de données qui étaient sur un tableau. Bon, très vite, on était un peu débordés parce que ça se faisait vraiment dans le cadre de nos cabinets, dans le cadre de notre pratique de tous les jours, et donc on n'a pas vraiment fait une étude prospective, même si c'est quand même au départ une étude prospective. Ce qui fait que, au bout d'un an, en fait, on avait inclus à peu près 180 patients, je dis ça de mémoire, il en restait 130, et donc on a fait les calculs sur 130. Quand c'est une étude prospective, il faut compter les perdus de vue pour les statistiques. Quand c'est une étude rétrospective, on ne les compte pas. Donc comme c'est un peu bâtard, quand on a publié, évidemment on a dû dire que c'était rétrospectif. Alors rétrospectif, il y a une interne qui a fait sa thèse dessus, elle a rappelé tous les patients, on a complété les dossiers, c'était un gros travail. De cette interne et puis de par rapport au dossier et par rapport aux patients, que je remercie d'ailleurs d'avoir participé à cette étude. Donc sur 132 patients, si on compte les perdus de vue, on a quand même 58% de ce qu'on appelle nous des bons résultats. Que ce qu'on appelle des bons résultats, c'est-à-dire des patients qui ont une consommation nulle, zéro, dans le temps on disait abstinent. On le dit encore maintenant, mais bon, moi je préfère dire une consommation nulle. Et puis des patients qui ont une consommation médicalement correcte.
Médicalement correcte. C'est-à-dire qu'ils arrivent à
maîtriser. Pas seulement. Médicalement correcte, selon les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'OMS, c'est-à-dire moins de 20 grammes par jour d'alcool chez la femme et moins de 30 grammes par jour chez l'homme, 10 grammes étant l'unité de mesure reconnue dans le monde entier pour l'alcool. Alors 10 grammes, c'est un ballon de rouge, par exemple. Bon, alors après, il y a des normes comme ça. Et donc, c'est des résultats assez extraordinaires à partir du moment où, avec les autres médicaments, on a 20-25%.
Là, on est nettement au-dessus, on a plus du double.
Beaucoup plus du double. Alors, bien sûr, il y a des biais dans l'étude, on nous l'a reproché. Le biais principal étant que les gens venaient nous voir pour avoir ce médicament. Mais d'un autre côté, la plupart du temps, c'était des patients qui avaient déjà tout essayé. Donc il y a un biais dans l'autre sens. Des patients qui avaient... c'était pratiquement un protocole compassionnel. Des patients qui avaient tout essayé, on avait des patients qui étaient SDF, des patients qui étaient dans un état qui allaient mourir.
Docteur Pascal Gache, est-ce que les résultats de cette étude correspondent un peu à ce que vous voyez, vous, dans votre cabinet, au jour le jour ?
Oui. À peu près, c'est-à-dire... L'anecdote vaut la peine d'être rappelée. L'année dernière, Philippe Jury et moi avions été invités à un colloque de l'association Aube, cette association qui était créée par des patients et des soignants pour développer l'utilisation du baclofène. Et lors d'un colloque organisé au mois de mai l'année dernière, on a présenté tous deux des résultats de nos travaux, les siens qu'il a publiés, moi je les ai pas publiés. Et à quelques pourcentages près, on disait la même chose de nos résultats positifs. Et c'est à peu près le sentiment qu'on a. Il y a une partie des patients qui ne peuvent pas prendre des doses, à mon avis, suffisantes parce qu'ils sont trop gênés par leurs effets indésirables. Alors après, on a toutes sortes de stratégies pour que, justement, ils essaient d'y arriver.
Mais dont celle de monter progressivement la dose.
Oui, alors on peut monter, on recule, on remonte, on attend. Enfin voilà, tout ça prend parfois plusieurs semaines. Et malgré tout, il y a un certain nombre de patients qui restent très gênés et qui ne montent pas ou qui abandonnent parce qu'ils pensent que c'est justement la gêne perçue est trop importante par rapport aux bénéfices qu'ils espèrent. Et moi, je trouve qu'on est autour de 20% de patients comme ça qui abandonnent. Probablement pour les effets indésirables, peut-être aussi qu'ils ont d'autres priorités à ce moment-là. Et sur le pourcentage qui reste des 80%, on est probablement encore à deux tiers ou trois quarts de gens qui vont bien, ce qui fait qu'à la fin, quand on mélange tout, ceux qu'on a perdu de vue, mais qu'on compte quand même dans l'effectif total, on est autour de 60%. Probablement le résultat de l'étude de Philippe Jury, je l'espère, sera entre 50 et 60, comme il l'a trouvé. Alors, est-ce que ce sera plus près de 50 ou plus près de 60, on ne sait pas. Ce qu'on mesure mal, et bien sûr, ça nous est rappelé chaque fois par les personnes qui sont moins favorables que nous au traitement avec le baclofène, c'est la nature de l'effet placebo qui est indiscutable, mais qui n'est certainement pas à la hauteur de ce qu'on parfois on nous fait croire.
Et puis surtout, jusqu'à maintenant, on n'avait pas trouvé le placebo qui marchait, non?
Alors voilà, donc c'est tout à fait, jusqu'à maintenant, ça serait un peu aussi tout à fait inexpliqué que d'un seul coup, l'effet placebo fonctionne. Mais on ne peut pas l'éliminer, et c'est ça l'intérêt, enfin un des intérêts de l'étude de Philippe.
Et on va y revenir, mais si vous voulez bien,
ça va nous aider là-dessus.
On va écouter Caroline. Pauline Mocor est allée rencontrer Caroline qui a 35 ans, elle a commencé à boire à l'âge de 21 ans. Elle a été d'ailleurs anorexique et boulimique avant d'être alcoolique pendant 12 ans. Pour elle, l'alcool, elle le dit elle-même, est venue combler un manque d'amour. Elle a fait 3 cures de sevrage avant d'essayer le baclofène il y a 3 ans.
Ce qui s'est passé, c'est que je n'en pouvais plus des cures. où de toute façon, on n'a que des médicaments. Au final, on est complètement coupé du monde, donc on se dit pendant 6, 8, 10 semaines qu'on n'a pas bu, mais quand on ressort, on est face à la réalité, dans les magasins, dans la rue, partout, on est face à l'alcool, et on est à nouveau tenté.
Et vous rechutez.
Et on rechute, disons qu'on voit la bouteille, on l'a dans la tête, et au final, bon, on se dit une, et une en amène beaucoup d'autres derrière, et c'est encore pire. Bon, j'ai rencontré un addictologue qui m'a prescrit des médicaments et c'est au bout de plusieurs mois, je dirais presque un an, qu'il a commencé à me prescrire le baclofène avec plein d'autres médicaments. J'ai augmenté les doses de baclofène et l'alcool a progressivement baissé, mais il était toujours présent.
Vous continuez à boire ?
Oui, je continuais à boire. Alors moins, mais je continue à boire. Je suis retournée en Irlande où j'avais déjà vécu. Et c'est là que j'ai continué à m'enfoncer, à tout perdre et à continuer à boire, à boire.
Malgré le baclofène.
Il m'en restait un petit peu, mais j'arrêtais quand même. J'avais du baclofène. J'avais d'autres médicaments. Je mélangeais tout, mais j'étais surtout au lit, à me lever, à trembler et à boire jusqu'à 10, voire 12 litres de bière par jour. Et c'est quand je suis revenue que j'ai repris contact avec l'addictologue et qui m'a remise au baclofène. Et bon, je me suis rendu compte que ma consommation baissait quand même.
Vous en aviez moins envie ?
J'en avais moins envie. Mon corps en avait peut-être moins besoin, mais peut-être que mon cerveau en voulait encore, ou voulait prouver que j'arrivais encore à boire.
C'est pas dangereux ?
C'est devenu dangereux parce que ça s'est terminé aux urgences. Quand je suis rentrée aux urgences, j'étais en état de pré-délirium tremens. Et au bout de quelques jours, j'ai eu une permission pour sortir et aller à Paris chez mon addictologue. J'étais confrontée donc à nouveau à la réalité. J'ai vu des affiches avec de la bière, donc mon alcool fétiche. Et là, j'ai regardé la bouteille et... elle ne m'a pas répondu, elle ne m'intéressait pas et j'étais plus du tout attirée. Je me suis rendu compte très vite qu'elle m'écœurait.
Donc depuis votre dernière hospitalisation en septembre 2010, vous n'avez plus jamais bu une seule goutte d'alcool ?
Il m'est arrivé dans un moment de bien-être de me dire « je vais me prendre un verre de vin blanc ». Mais ça m'est arrivé peut-être deux fois. Et derrière, j'en voulais pas un deuxième. J'étais même plutôt mal à l'aise. Et
ça ne vous a pas fait plaisir ?
Ça m'a pas. Au final, non, ça m'a pas fait plaisir.
Est-ce que vous avez des effets secondaires du baclofène ?
À ma connaissance, non. Je sais que l'effet secondaire principal, c'est la fatigue. Je dirais plutôt que je suis infatigable.
Est-ce que ça vous coupe l'appétit ?
Non, pas du tout. Je l'ai retrouvé.
Vous prenez le baclofène en quelle quantité ?
Alors actuellement, je suis toujours à ma dose seuil, c'est-à-dire celle qui m'a fait découvrir mon indifférence, c'est-à-dire 300 mg par jour. 300 mg, c'est quand même 10 cachets de baclofène le matin, 10 le midi et 10 le soir. Je l'ai toujours sur moi, c'est devenu systématique.
Est-ce que vous pensez un jour arrêter le baclofène ?
Oui, j'imagine un jour vivre sans baclofène.
Donc vous prenez du baclofène, mais vous accompagnez ça aussi d'une démarche thérapeutique.
Voilà, pour moi, l'essentiel aussi, c'est quand on arrête l'alcool, quand on se sent indifférent, c'est aussi de savoir pourquoi. Pourquoi on buvait ? Et puis d'apprendre à se connaître sans l'addiction, à essayer aussi de ne pas trouver une autre addiction. Donc il fallait que j'apprenne à me découvrir et à me connaître. Donc je suis avec une psychiatre, plus l'addictologue, et je continue un travail sur moi aussi en écrivant.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de l'utilisation du baclofène dans la prise en charge de l'alcoolisme avec le professeur Philippe Jory et le docteur Pascal Gache. Professeur Jory, une réaction par rapport à ce témoignage de Caroline. D'abord sur la dose, effectivement, c'est une dose très élevée de baclofène.
C'est une dose élevée, c'est pas la dose la plus élevée, mais c'est une dose élevée. Et Bon, c'est une de mes patientes, donc je peux dire que c'est bien qu'elle ait témoigné, qu'elle ait pu témoigner, qu'elle ait pu dire ses doses, et puis que les effets secondaires, parce que quand même, on parle beaucoup des effets secondaires, mais il y en a qui n'en ont pas. À 300 mg, elle est comme vous et moi, elle est normale quand elle vient me voir au cabinet. Moi, je l'ai connue, cette jeune femme, ce qu'elle n'a pas dit, ou ce qui a été coupé peut-être à l'enregistrement, mais je l'ai connue venant avec toutes ses affaires, entre deux squats, parce qu'elle était carrément SDF. Donc là, elle a retrouvé vraiment une reprise sociale.
Parce que l'alcool désociabilise.
L'alcool désociabilise, on perd tout. Elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu, et le boulot, et les amis, et un toit. Et donc, elle a retrouvé beaucoup de choses. Ça fait plaisir de la voir.
Docteur Pascal Gage, dans vos patients, vous en avez aussi qui n'ont pas d'effets secondaires, qui ne se plaignent de rien?
Oui, c'est très impressionnant parce que c'est très imprévisible. On ne peut pas savoir qui aura les effets, qui les aura pas. Et évidemment, ça rend pas forcément les choses plus simples. Mais en tout cas, oui, j'ai plusieurs patients qui ont parfois des doses encore plus élevées, qui sont tout à fait bien. Et d'autres qui, à 70 mg, se ressentent par exemple de la somnolence ou une espèce de sentiment d'intoxication. C'est très, très variable. Si je peux rebondir sur le témoignage, il y a deux choses qui me sont venues en tête. La première, c'est que j'ai vu il y a quelques semaines une jeune patiente qui avait des antécédents d'anorexie boulimie, qui était rentrée dans l'ordre, et puis à la suite de l'accouchement d'un enfant qui avait quelques difficultés, elle a repris des crises de boulimie. Elle est venue me voir pour ça, pour ces crises de boulimie, 8 à 10 crises de boulimie par jour avec des vomissements, enfin tout ça dans un sentiment de honte majeur. Elle a pris du baclofène et à 150 mg, tac, les crises de boulimie se sont arrêtées. Et ensuite, elle s'est laissée avoir, elle n'a plus de baclofène, elle n'avait plus, et les crises ont repris. Et elle est revenue deux semaines après sans baclofène où elle refaisait les crises, elle a repris 150 mg et de nouveau les crises se sont arrêtées. Voilà. Donc c'est
très intéressant ce que vous racontez, parce que ça voudrait dire que ce baclofène pourrait marcher entre guillemets sur d'autres addictions que l'alcool.
Oui, en tout cas il y a des effets intéressants autour des troubles du comportement alimentaire. C'est encore très embryonnaire. Donc je réagissais parce que cette patiente qu'on a entendue avait aussi des antécédents d'anorexie boulimie. Et puis le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est que la semaine dernière j'ai vu un patient qui avait d'énormes problèmes d'alcool, un monsieur de 45 ans, divorcé, perdu le travail, enfin une espèce de déchéance qui est tenue à bout de bras par sa maman. Et je l'ai mis au baclofène, il a pris du baclofène, et il était à 200 mg et ça allait pas très bien. Il faut le dire, c'était pas très bien. Et lors du dernier rendez-vous, on a essayé de reprendre les doses, enfin voilà. Et puis quand je l'ai revu la semaine dernière, c'était à peu près 3-4 semaines après le précédent rendez-vous, il m'a dit ça va bien, j'ai quasiment plus bu. Et puis je lui dis, mais comment vous avez fait avec les médicaments? Il me dit, je prends 200 mg, puis ça marche. Mais j'étais un peu étonné, parce que précédemment, avec les 200 mg, ça ne marchait pas. Et en fait, quand on a pris le compte, il s'était trompé, il a pris le double, il a pris 400 mg. Et probablement la dose qu'il lui fallait pour faire taire son craving. Et pas d'effet indésirable, enfin très très peu, un peu de sieste l'après-midi, mais sinon rien du tout. Et voilà, par cette erreur un peu curieuse où il a pris lui-même le double de comprimé prescrit, il s'est trouvé libéré là, et il est très content.
On a des problèmes de ligne avec vous, docteur Pascal Gage. De temps en temps, d'un seul coup, on a des bips, mais on comprend ce que vous dites. Professeur Jauré, ça voudrait dire qu'on peut augmenter les doses comme ça? Jusqu'à combien ça...
Ben, on ne sait pas. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Il y a comme ça deux autres médicaments où il n'y a pas de limite. La méthadone, pour nos patients héroïnomanes, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, dans l'autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont bien avec 20 mg, et puis des fois, aux États-Unis, par exemple, il y a un centre où ils montent jusqu'à 1 gramme. C'est-à-dire que ça fait 1000. Donc, la
dose.
La dose phénoménale.
Et l'autre exemple,
c'est la buprénorphine, où il y a des gens qui vont bien avec 0,4 mg, et d'autres, il faut qu'ils prennent 16, voire 24
mg. Et qui sert dans quoi, cette...
L'héroïne aussi.
L'héroïne aussi.
Mais alors, je peux rebondir sur ce que dit Pascal. C'est très intéressant au point de vue par rapport à l'anorexie, à la boulimie. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de patients, de patientes surtout, qui ont été anorexiques à l'adolescence.
Alors je vais être obligé de vous couper la parole, professeur Jauré, parce qu'on a été interrompu par les informations pendant 3 minutes, mais vous nous développerez ça juste après les informations, donc dans 3 minutes.
À tout à l'heure.